Bonjour à tous. C'est avec un réel plaisir que nous sommes accueillis dans vos nouveaux locaux et que nous sacrifions à cette habitude que nous avons prise depuis quelques années maintenant d'avoir ensemble notre dernier culte de juillet au premier culte du mois d'août dans avec nos communautés réunies, puisque nous sommes en effectif un peu plus réduit pour pouvoir tenir dans nos locaux respectifs. Et cette année, voilà, nous voyons l'aboutissement aussi de toutes vos prières auxquelles nous sommes associés, et c'est avec joie que nous vous voyons installés dans ces beaux locaux qui, nous en sommes sûrs, sont à la gloire du Seigneur dans leur utilisation. Nous alternons donc chaque année aussi prédication et présidence, et il nous revient à notre tour d'assurer cette prédication, ce que je fais avec plaisir. Et je voudrais que l'on prie auparavant, avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, ce qu'il a mis sur mon cœur, pour qu'il nous parle, et à moi le premier d'entre nous tous. Seigneur notre Dieu, nous respectons cette parole que tu nous as laissée, nous l'aimons. Nous savons que tu y as inscrit tout ton dessein pour nous, ta création, ton humanité, Seigneur, et nous voulons te demander de nous parler encore ce matin, de parler à nos cœurs. Que nous puissions y voir le reflet de ta gloire, la gloire de ton propre Fils, Jésus-Christ, et que nous puissions y voir les indications de ce que tu veux pour chacun d'entre nous, des hommes nouveaux, par la vertu de cette nouvelle naissance, Seigneur, rendue possible par le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Vous avez déjà entendu cette phrase, quelque peu arrogante, dans la bouche d'un certain nombre d'hommes politiques, pas un seul, celui auquel peut-être vous pensez le plus rapidement, mais je l'ai entendu dans d'autres bouches aussi. Vous avez peut-être fait aussi dans la longue recherche de locaux l'expérience d'une certaine vanité de ces promesses, aussitôt dites, aussitôt faites, aussitôt oubliées. Et pourtant, cette phrase exprime un principe que je trouve assez universel dans l'Écriture, qui est celui de la cohérence. Nous trouvons ce principe peut-être en premier lieu dans la personne de notre Dieu, pour qui cette phrase, je trouve, serait tout à fait pertinente. Il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit, et il le fait à la perfection. Notre Dieu ne manifeste aucune incohérence, aucune distorsion, aucun divorce entre sa volonté éternelle, son dessein éternel, et ses déclarations. Dieu a un projet, une volonté qu'il a exprimée. Il l'a exprimé dans la révélation écrite, il l'a écrite noir sur blanc, dans la loi, dans sa parole. Il a figé ses promesses au travers d'alliances qu'il a conclues avec l'humanité tout entière. Il l'a inscrit, cette volonté aussi, dans le cours de l'histoire. On y voit toute sa révélation. Et notre Dieu nous dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est dans le livre de Deutéronome, qui est ce verset au chapitre 29, verset 29. Notre Dieu dit ce qu'il fait. Et notre Dieu dit, bien entendu, dites-moi juste où est-ce qu'il faut que je vise. Voilà. En face. D'accord, merci. Notre Dieu également, s'il déclare un certain nombre de choses concernant sa volonté, ce qu'il entend à notre propos, son dessein éternel pour chacun d'entre nous, il met en parfaite cohérence également ses actions avec ses déclarations. Il fait ce qu'il dit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Et de ce point de vue, notre Dieu ne varie pas dans le temps. Il ne change pas. Il y a en lui ni changement, ni ombre de variation, nous dit l'apôtre Jacques. Lui reste le même. Nous le chantons parfois, psaume 102, verset 28. Il reste le même dans sa fidélité, dans sa constance et dans la cohérence dans le temps au niveau de ses promesses. Il y a une parfaite cohérence aussi dans notre Dieu entre ses attributs et ses entreprises. Je cite simplement quelques exemples. Dieu déclare qu'il est amour. Et dans sa parole, il nous dit que amour est synonyme de se donner. Notre Dieu se donne. Il se donne en Jésus-Christ. Il se donne pour toute sa création. Notre Dieu déclare qu'il est saint. Il déclare sa sainteté. Et notre Dieu agit par ses jugements. Il agit dans sa justice. Nous l'avons lu dans ce chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Notre Dieu déclare sa sainteté. Et Dieu manifeste tout au cours de la révélation sa haine du mal, sa colère même contre le mal. Il déclare aussi sa grâce. Et notre Dieu ne cesse de pardonner et de relever le pécheur qui lui demande grâce. Il y a une parfaite cohérence entre les attributs de Dieu et ses entreprises. Cette cohérence, nous la trouvons bien entendu aussi en Jésus-Christ, son propre Fils. Pendant toute sa vie, Jésus-Christ n'a eu de cesse de penser, de vouloir, de parler, d'agir en parfaite cohérence avec la volonté de son Père. Et au début de son ministère, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean au chapitre 4, le verset 34. Et à la fin de sa vie, la veille de sa mort, il fait ce constat « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Il y a une parfaite cohérence entre ce que Jésus-Christ percevait de sa mission et ce qu'il avait accompli. Et ses pires détracteurs étaient incapables de trouver en lui la moindre faille. « Qui de vous me convaincra de péché » disait-il. Et c'était le silence qui répondait à cette question. Il a affirmé, par exemple, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Eh bien, il a donné sa vie sur la croix pour nous tous. Notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, a été parfaitement cohérent toute sa vie, mais également, il reste maintenant cohérent avec lui-même. Il est le même, Jésus-Christ est le même, aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement, ce qui nous autorise à avoir une parfaite confiance en lui. L'œuvre du diviseur, Satan, qui est appelé le diviseur, qui est appelé le menteur dès le commencement, est intervenue et dans une humanité créée à l'image de Dieu, donc avec cette vocation aussi à la cohérence, l'homme a ouvert la porte à l'incohérence dans cette scène inaugurale de Genèse au chapitre 3, que je ne vais pas relire, mais une incohérence entre ce qu'il savait de la volonté de Dieu concernant l'arbre de la connaissance du mal et qu'il réaffirme devant Satan même, et ensuite ce qu'il va choisir. C'est l'entrée en scène de la désobéissance. Entre ce qu'il a expérimenté de la présence de Dieu, cette présence paisible de Dieu, et ce qu'il va expérimenter dorénavant, qui est la peur. Entre la vérité concernant sa situation et ce qu'il déclare, et c'est l'irruption du mensonge. Entre ce à quoi son cœur aspire, la communion avec son Dieu, la paix avec lui, et ce qu'il va vivre, la distance et la rupture. Satan a comme enfoncé un coin entre ce que nous savons, ce que nous discernons comme bon, et ce que nous décidons, et ce que nous disons, et ce que nous faisons finalement. Il y a une espèce d'explosion de cette cohérence avec laquelle le Seigneur avait voulu nous créer et dans laquelle il veut que nous marchions. Et on a abouti finalement à un nouvel état relativement dramatique tel que l'apôtre Paul l'exprime dans Romains au chapitre 7, dans ce texte dont je voudrais lire quelques versets. « Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais » au verset 15. Au verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et un peu plus loin, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. » L'apôtre Paul fait le constat de cette incohérence dans laquelle il est amené à vivre par l'irruption du péché au sein de sa propre vie, qui l'amène à ce nouvel état absolument dramatique. Et Jésus, dans ses rencontres, diverses rencontres au cours de son ministère, il a constamment, si on les regarde une par une, il a constamment mis l'accent sur cette notion de la cohérence. À propos de la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus de parfum, il dit, Il lui a été beaucoup pardonné, elle a beaucoup aimé. Il y a une cohérence dans sa conduite. Lorsqu'il il explique la conduite de cette femme, il justifie la conduite de cette femme à ses disciples. Chez la femme adultère également, « Va, je ne te condamne pas », et il y a une cohérence qui s'ensuit, « Va et ne pêche point ». Chez Zachée, lorsqu'il entre dans la demeure de cet homme, il en fait sortir l'esprit de fraude, de vol qui le caractérisait. Chez le jeune homme riche, qui qualifie Jésus de bon maître, Jésus-Christ l'appelle à la cohérence, c'est-à-dire « va jusqu'au bout de l'observation de la loi, puisque je suis un bon maître, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Et malheureusement, cet homme n'a pas pu rentrer dans cette cohérence. Et c'est chez les religieux, les pharisiens, que Jésus-Christ a le plus fustigé, dénoncé cette incohérence. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit « ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu ». Mais ceux qui font ma volonté, ce n'est pas le tout de dire « Seigneur » si ensuite on ne vit pas la condition de serviteur de ce Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 15, au verset 8, Jésus, toujours à propos des pharisiens, condamne le fait qu'un peuple l'honore des lèvres et que son cœur est éloigné de lui, de prononcer des paroles d'honneur à notre Dieu par sa bouche et d'avoir un cœur éloigné de Dieu, c'est une incohérence que Jésus-Christ condamne. Dans Matthieu, chapitre 23, où il dresse un réquisitoire violent mais réaliste de la condition de ces pharisiens, il dit au verset 3, « Faites, les scribes et les pharisiens sont dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Une incohérence entre ce qu'ils enseignent et ce que eux-mêmes font, alors qu'ils devraient être appelés à être des exemples dans ce domaine. Au verset 23, je prends simplement quelques exemples épars. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. C'est-à-dire, soyez cohérents avec vous-même, encore, dans le fait de payer la dîme et d'oublier la miséricorde. Dans le verset 28 de ce même chapitre, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous vous donnez un masque de justice, et au fond de vous-même, vous vivez l'iniquité, une incohérence, là encore. » Et c'est le dilemme que soulève aussi l'apôtre Jacques dans son épître, lorsqu'il met en relation la foi et les œuvres. Si nous avons la foi, nous devons avoir les œuvres qui les accompagnent. Et si vous relisez ce que nous faisons avec un groupe dans l'Église en ce moment, si on relit le message des différents prophètes de l'Ancien Testament, dans chacun des messages de ces prophètes, on retrouve aussi cette interpellation par rapport à l'incohérence. Le prophète Élie, par exemple, dans 1 Roi, au chapitre 18, au verset 21, devant ce peuple qui sacrifie et qui cloche entre Baal et l'Éternel Dieu, il dit « Si, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui, soyez cohérents. Vous ne pouvez pas rester assis entre deux chaises, et le peuple ne lui répondit rien. » Embarrassé justement par cette incohérence qui le caractérisait. Dans le prophète Malachie, au chapitre 1er, le verset 6, toujours dans ce message des prophètes, mais on peut retrouver ça dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Malachie interpelle le peuple et dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, mais en quoi avons-nous méprisé ton nom? En plus, ils font les innocents face à cette interpellation. Il y a là donc toute une série de messages, que ce soit par l'attitude même de notre Dieu, son identité intrinsèque, la conduite de notre Sauveur Jésus-Christ, les interpellations de l'Écriture, la révélation de cette dramatique histoire de la chute également, il y a là tout un ensemble qui converge vers cette marque que nous sommes appelés, je crois, à développer en tant qu'homme nouveau, recréé par la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous. C'est une interpellation à retrouver cette marque de la cohérence qui correspond à notre vocation à être conforme à la personne de Jésus-Christ, notre vocation à devenir participant de la nature divine, c'est-à-dire à retrouver cette marque d'une parfaite cohérence dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, la soumission à la seigneurie de Christ dans nos vies, nos aspirations, nos pensées, nos prises de décision qui sont régulièrement soumises à la seigneurie de Jésus-Christ si nous disons qu'il est notre Seigneur. Ça touche aussi à la qualité de notre pureté, de notre sainteté, quel que soit le temps ou le lieu dans lequel nous sommes interpellés. Et c'est vrai que nous devons faire le constat que nous vivons parfois des divorces, des incohérences, dans ce que nous sommes dans le cadre de l'Église parmi nos frères et sœurs et ce que nous sommes ensuite dans la semaine au sein de nos propres familles ou dans notre travail. Nous vivons une forme d'incohérence entre ce que nous sommes le dimanche et ce que nous sommes en semaine. Nous vivons une forme d'incohérence en ce que nous disons, faisons, en manifestons en pleine vue et ce que nous sommes et ce que nous manifestons parfois dans le secret. Nous avons constamment cette tentation de vivre dans l'incohérence, de vivre cette division au fond de nous-mêmes entre ce que nous croyons, ce que nous savons, ce que nous disons, ce que nous faisons finalement. Au niveau de la qualité de notre amour également, que nous sommes souvent prompts à affirmer notre amour pour les autres, que ce soit dans le cadre de nos relations personnelles ou nos relations communautaires, et l'Écriture qui nous appelle à ce que cet amour ne reste pas en parole, mais qu'il se manifeste en action, dans la conformité de nos pensées, les certitudes, l'espérance que nous avons, la confiance que nous avons avec ce que nous savons de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y aurait peut-être dans nos vies moins de peur, moins d'angoisse, moins de dépression, si nous avions vraiment cette conformité de nos pensées, de nos émotions, avec ce que nous savons de la fidélité de notre Dieu. Nous chantons souvent de belles paroles. Nous en avons chanté ce matin encore. Et nous les avons chantées sans nous rendre compte parfois que ces paroles nous engagent dangereusement. Lorsque nous chantons « Oui, prends tout Seigneur, prends mon corps et mon âme ». Ces paroles prononcées, dites de nos bouches, ces paroles dans lesquelles nous avons vraiment foi, c'est le désir de notre cœur. Est-ce que nous le mettons en œuvre dans nos propres vies ? Et je m'inclus dans cette interpellation, moi le premier. Nous chantons « De tout en moi, sois Seigneur ». Nous l'avons chanté, je crois que c'est notre premier chant. Là encore, c'est une affirmation qui nous engage beaucoup. Que le Seigneur nous aide dans nos vies personnelles, à ne pas vivre cette forme d'incohérence où nous pouvons dire, professer avec enthousiasme certaines paroles sans ensuite les mettre en œuvre dans nos propres vies et dans notre vie communautaire également. Nous affirmons notre fraternité. Est-ce que cette fraternité est réellement inscrite dans des actes les uns vis-à-vis des autres ? Nous affirmons la vocation de l'Église pour la proclamation de l'Évangile, pour la diffusion du message de Christ dans le monde entier, dans les missions, etc. Est-ce que cela se traduit par un réel intérêt ? Et quand je vois peut-être simplement l'assistance à des réunions missionnaires, des comptes rendus de missionnaires dans nos églises, on peut se poser des questions à ce sujet-là. Nous croyons dans la puissance de la prière. Si nous réfléchissions à l'assistance à nos réunions de prière au niveau communautaire, nous disons qu'il y a peut-être des incohérences aussi dans notre vie d'église auxquels nous devrions porter attention et essayer de corriger. Nous croyons à la pertinence de l'Écriture. Et quand nous voyons l'assistance à des séminaires de formation, aux études bibliques, aux églises, la fidélité à un programme de lecture régulier de la parole, là encore, nous rendons compte que nous vivons certaines formes d'incohérence sur lesquelles le Seigneur nous interpelle. Notre Dieu est un Dieu de cohérence. Et dans son appel à devenir participant de la nature divine, il y a cet appel aussi à méditer, à nous interroger sur ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes. Si l'Éternel est Dieu, allons après lui si nous voulons vraiment être cohérents comme notre Seigneur est cohérent. Que le Seigneur puisse nous y aider, les uns et les autres, et moi le premier. Merci.